Aristote, Physique, traduction Jules Barthélemy Saint-Hilaire, livre 3, chapitre 3, sommaire, résumé de la définition du mouvement. Paragraphe 1. Nous avons donc expliqué ce qu'est le mouvement, soit en général, soit dans ses espèces particulières. Et l'on ne peut plus être embarrassé pour définir chacune de ces espèces. Ainsi, l'altération, par exemple, sera définie l'acte, l'entéléchie de l'être qui peut être altéré, en tant qu'il peut subir une altération. Paragraphe 2. On définira plus clairement encore le mouvement en disant qu'il est l'acte de ce qui, en puissance, peut agir et souffrir en tant qu'il est ce qu'il est. Et cela, soit d'une manière absolue, soit pour chaque cas particulier. Ici, l'acte de la construction. Ailleurs, l'acte de la guérison que le médecin opère. Et l'on emploiera le même procédé pour définir chacune des autres espèces du mouvement. Chapitre 4. Sommaire. Théorie de l'infini. Cette étude appartient spécialement à la physique. Exemple des philosophes antérieurs. Théorie des pythagoriciens et de Platon sur l'infini. Théorie d'Anaxagore et de Démocrite. Tous les philosophes ont fait de l'infini un principe. Anaximandre la même confondue avec la divinité. Paragraphe 1. La science de la nature s'occupant des grandeurs, du mouvement et du temps, trois choses qui sont de toute nécessité ou infinies ou finies, bien que d'ailleurs on ne puisse pas dire que tout sans exception soit infini ou fini, par exemple la qualité dans les choses et le point en mathématiques, les choses de ce genre ne devant peut-être pas nécessairement être rangées dans l'une ou l'autre de ces deux classes. Il convient, quand on traite de la nature, d'étudier aussi l'infini et de rechercher s'il est ou s'il n'est pas, et dans le cas où il est, ce qu'il est. Paragraphe 2. Une preuve manifeste que cette recherche sur l'infini appartient en propre à la science de la nature, c'est que tous ceux qui ont traité avec une véritable autorité cette partie de la philosophie se sont occupés de l'infini. Tous en ont fait un principe des êtres. Paragraphe 3. Les uns, comme les pythagoriciens et Platon, pensant que l'infini est en soi ce principe, on en fait non pas l'attribut et l'accident d'une autre chose, mais une substance qui existe par elle-même. Paragraphe 4. La seule différence, c'est que les pythagoriciens mettent l'infini parmi les choses sensibles, car ils ne supportent pas que le nombre est séparé des choses, et l'infini est pour eux ce qui est en dehors du ciel. Platon, au contraire, pense qu'en dehors du ciel il n'y a rien, pas même les idées, qui d'ailleurs ne sont nulle part. Et il n'en soutient pas moins que l'infini est dans les choses sensibles et dans les idées. Paragraphe 5. Les pythagoriciens disent encore que l'infini est le Père, car selon eux, c'est le Père qui, enveloppé et complété par l'impère, donne aux êtres l'infinitude. Ils allèguent en preuve ce qui se passe dans les nombres, ou en ajoutant les gnomons à l'unité, et séparément, on obtient tantôt une figure toujours différente et tantôt une figure pareille. De son côté, Platon distingue deux infinis qui sont le grand et le petit. Paragraphe 6. Les philosophes physiciens supposent tous à l'infini une autre nature et lui prêtent celle des éléments qu'ils admettent, tels que l'eau, l'air et les intermédiaires analogues. Paragraphe 7. Parmi ceux qui reconnaissent que les éléments sont en nombre fini, personne n'a jamais songé à les faire infinis en grandeur. Paragraphe 8. Mais ceux qui croient les éléments infinis en nombre, comme Anaxagore et Démocrite, l'un les composant de ses parties similaires, ou Homo et Homeri, et l'autre de ses formes partout répandues comme des germes, ceux-là pensent que l'infini est continu par le contact universel des choses. Paragraphe 9. Anaxagore affirme qu'une partie quelconque d'une chose est un mélange pareil au reste de l'univers, parce que selon lui, on peut observer que tout vient de tout. C'est là aussi ce qui lui faisait dire qu'à l'origine, toutes choses étaient pêle-mêle les unes avec les autres, et que, par exemple, ce qui est actuellement de la chair était aussi ce qui est actuellement des os et telle autre chose. Que tout, en un mot, était tout, et que toutes choses étaient par conséquent confondues ensemble, car selon lui, non seulement il y a dans chacune un principe de distinction pour cette chose même, mais un principe de distinction pour toutes les autres. Mais comme il est bien vrai, en effet, que tout ce qui se produit vient d'un corps analogue, qu'il y a réellement génération de tout, sans que d'ailleurs cette génération soit simultanée, ainsi que le croit Anaxagore, et comme enfin il faut un principe précis de génération, ce principe est certainement unique, et c'est ce qu'Anaxagore appelle l'intelligence. Or, l'intelligence en agissant intellectuellement doit partir d'un certain principe déterminé. Donc nécessairement, tout était jadis pêle-mêle, et les choses ont dû commencer à recevoir le mouvement. Quant à Démocrite, il pense que jamais dans les éléments primordiaux, l'un ne peut venir de l'autre, mais que cependant, c'est le même corps commun qui est le principe de tous les autres, ne variant jamais que par la grandeur et la forme de ses parties. Paragraphe 10. Ce qui précède doit nous prouver que l'étude de l'infini appartient bien aux physiciens. Paragraphe 11. Tous, d'ailleurs, ont eu pleine raison de faire de l'infini un principe, car il n'est pas possible que l'infini ait été fait pour rien, et on ne peut pas lui attribuer une autre valeur que celle de principe. Tout, en effet, est principe, ou vient d'un principe. Mais il ne peut pas y avoir un principe de l'infini, puisqu'alors ce serait une limite qui le rendrait fini. Paragraphe 12. Il faut de plus que l'infini, en tant que principe d'un certain genre, soit incréé et impérissable, car ce qui est créé doit avoir une fin, et il y a un terme à tout dépérissement. Aussi, nous le répétons, il n'y a pas de principe de l'infini, et c'est lui qui semble le principe de tout le reste. Paragraphe 13. Il embrasse tout, il gouverne tout, comme le disent ceux qui ne reconnaissent point en dehors de l'infini d'autres causes telles que l'intelligence ou l'amour. Paragraphe 14. Ils ajoutent que l'infini est le divin, puisqu'il est immortel et indestructible, ainsi que le disait Anaximandre, et avec lui le plus grand nombre des philosophes naturalistes. Chapitre 5. Sommaire. 5 arguments pour démontrer l'existence de l'infini. Le temps, la divisibilité des grandeurs, la génération des choses, la nécessité d'une limite absolue et le nombre conçu par la pensée. Difficulté inévitable de la théorie de l'infini. Paragraphe 1. Pour démontrer l'existence de l'infini, on peut recourir à 5 arguments principaux. Paragraphe 2. D'abord, le temps, qui est infini. Paragraphe 3. Puis, la divisibilité dans les grandeurs, car les mathématiciens emploient aussi la notion de l'infini. Paragraphe 4. En troisième lieu, l'infini se prouve par cette considération que le seul moyen que la génération et la destruction ne défaillent jamais, c'est qu'il y ait un infini d'où sortent sans cesse tout ce qui se produit. Paragraphe 5. Quatrièmement, tout ce qui est fini est toujours fini relativement à quelque chose. Et nécessairement, il n'y aurait jamais de limite ni de fin s'il fallait toujours nécessairement qu'une chose se limitât relativement à une autre. Paragraphe 6. Enfin, le plus puissant argument, et qui embarrasse tous les philosophes également, c'est que dans la pensée, il n'y a pas de limitation possible et qu'en elle, le nombre est infini, aussi bien que les grandeurs mathématiques et l'espace qui est en dehors du ciel. Cet extérieur du ciel étant infini, il faut bien qu'il y ait un corps infini, ainsi que des mondes sans fin. Car pourquoi le vide serait-il dans telle partie plutôt que dans telle autre ? Par conséquent, s'il y a du plein en un seul endroit, le plein doit être aussi partout. En admettant même qu'il y ait du vide, il n'en faut pas moins nécessairement que l'espace soit infini et que le corps soit infini également. Car dans les choses éternelles, il n'y a aucune différence entre pouvoir être et être. Paragraphe 7. Mais la théorie de l'infini présente toujours une difficulté très grande, et l'on tombe dans une foule d'impossibilités, soit qu'on en admette, soit qu'on en rejette l'existence. Paragraphe 8. Puis, comment l'infini existe-t-il ? Existe-t-il comme substance ? Ou bien n'est-il qu'un accident essentiel dans quelque substance naturelle ? Ou bien encore, n'existe-t-il ni de l'une ni de l'autre façon? L'infini n'existe pas moins cependant, tout aussi bien qu'il y a des choses qui sont en nombre infini. Paragraphe 9. Mais ce qui regarde par-dessus tout le physicien, c'est de savoir s'il y a une grandeur sensible qui soit infinie. Chapitre 6. Sommaire. Sens divers du mot infini. Discussion des opinions diverses. Réfutation de la théorie pythagoricienne. L'infini ne peut être séparé des choses sensibles. Et s'il n'est qu'un accident, on ne peut plus en faire un principe. Contradiction des pythagoriciens qui font de l'infini une substance divisible. Paragraphe 1. Un premier soin qu'il faut prendre, c'est de définir les acceptions diverses du mot « infini ». Paragraphe 2. En un sens, on appelle infini ce qui ne peut être parcouru, attendu que par sa nature il ne peut être mesuré, de même que la voie par sa nature est invisible. En un autre sens, l'infini est ce dont le cours est sans terme ou à peu près sans terme, ou bien ce qui par nature, pouvant avoir un terme qui finisse son cours, n'en a pas cependant et n'a pas de limite. Paragraphe 3. Enfin, tout peut être considéré comme infini, soit sous le rapport de l'addition, soit sous le rapport de la division, soit sous ces deux rapports à la fois. Paragraphe 4. Il est impossible que l'infini soit séparé des choses sensibles et que ce quelque chose soit lui-même infini. Car si l'infini n'est ni grandeur ni nombre et qu'il soit essentiellement substance et non point accident, dès lors il est indivisible puisque le divisible est toujours ou une quantité ou un nombre. Mais s'il est indivisible, il n'est plus infini, si ce n'est, comme on dit, que la voie est invisible. Or, ce n'est pas ainsi que le considèrent les philosophes qui affirment son existence, et ce n'est pas sous cet aspect que nous l'étudions nous-mêmes. C'est seulement comme ne pouvant être parcouru. Paragraphe 5. D'autre part, si l'infini existe comme simple accident, il n'est plus dès lors un élément des êtres en tant qu'infini, pas plus que l'invisible n'est l'élément du langage, bien que la voix soit invisible. Paragraphe 6. De plus, comment comprendrait-on que quelque chose puisse par soi-même être l'infini quand le nombre et la grandeur dont l'infini est essentiellement une propriété, ne seraient point séparés eux-mêmes des choses, car il y aura moins de nécessité pour cette chose d'être infinie que pour le nombre et la grandeur. Paragraphe 7. Il est évident encore que l'infini ne peut pas plus être en acte qu'il ne peut être substance et principe, car alors, toute partie qu'on lui emprunterait serait infinie puisqu'il est divisible, et que l'infini et l'essence de l'infini se confondent du moment que l'infini est une substance et qu'il n'est pas un attribut dans son sujet. Par conséquent, ou l'infini est indivisible, ou il est divisible en d'autres infinis. Mais il ne se peut pas que la même chose soit plusieurs infinis. Cependant, il faudrait que de même que l'air est une partie de l'air, de même il peut y avoir un infini d'infini, si l'on admet l'infini comme substance et principe. Donc, l'infini est sans partie et il est indivisible. Mais il est impossible que l'être en acte soit infini, puisqu'il faut nécessairement qu'il soit une quantité déterminée. Paragraphe 8. Par conséquent, l'infini n'existe que comme accident. Mais s'il en est ainsi, nous avons dit qu'on ne peut plus l'appeler principe. Et alors, le véritable principe, c'est ce dont l'infini est l'accident, soit l'air, soit le nombre pair, etc. Paragraphe 9. C'est donc se tromper étrangement que de traiter l'infini comme le font les pythagoriciens, qui tout à la fois en font une substance et le divisent en parties.